France Culture. Le journal, Diane Berger.
Il est 8h précisément, bon réveil avec France Culture. Quatrième jour d'affrontement entre la Thaïlande et le Cambodge. Les violences et les tirs d'artillerie ont causé la fuite de 200 000 habitants. Reportage dans la ville thaïlandaise de Surin, à 60 km de la frontière entre les deux pays. Face à la famine qui touche Gaza, des livraisons d'aide humanitaire par parachute. Israël a largué des vivres la nuit dernière. Londres prépare à son tour une opération. Et puis en France, la fatigue des CRS, ils s'estiment surutilisés cet été. Les États-Unis tentent une médiation en Asie du Sud-Est. Le président Donald Trump a échangé hier avec les dirigeants de la Thaïlande et du Cambodge concernant un éventuel cessez-le-feu, pour l'instant sans aboutir. Les combats continuent à la frontière entre les deux royaumes. Bangkok et Phnom Penh s'accusent mutuellement d'avoir lancé les hostilités jeudi matin. On compte d'ores et déjà une trentaine de morts. Plus de 200 000 personnes ont dû être déplacées en Thaïlande. La solidarité s'organise. Notre correspondante Juliette Chénion s'est rendue à Surin, à 60 km de la frontière.
À l'Université technique de Surin, les bénévoles s'activent depuis 4 jours déjà. Beaucoup de familles évacuées dorment ici au sol, sur des nattes, et n'ont rien emporté avec elles. Plus le temps passe, plus les dons deviennent essentiels, explique Ting Kantana, bénévole. Elle gère les distributions.
Vous pouvez voir ici les couches et les bouteilles d'eau.
Dans les provinces touchées par les combats, plus d'une centaine d'hôpitaux, d'écoles et de salles de sport accueillent des personnes évacuées. Les dons affluent dans ce centre de l'université, assure Ting Kantana.
Ce sont des dons des gens de la province, du secteur privé, mais aussi des autorités. Et là-bas, dans cette pièce, ce sont des dons de la famille royale.
Les autorités thaïlandaises communiquent largement sur leur mobilisation. Et comme à chaque flambée des tensions, dans un conflit vieux de plusieurs décennies, les discours patriotiques refont surface. Ce député d'un parti populiste, Thamanat Prompo, était en visite devant la presse au centre d'accueil de l'université.
En tant que Thaïlandais, nous voyons que notre peuple souffre, alors nous leur apportons notre soutien. Il faut que l'on s'entraide.
Quelques rues plus loin, à l'hôpital, des dizaines de Thaïlandais viennent donner leur sang, une première pour cette habitante.
Je ne peux pas être au front, alors je participe comme je peux.
Les réserves de sang sont déjà pleines ici à Surin, mais cette mère de famille tenait à montrer sa solidarité. Elle regrette ce conflit avec le Cambodge.
Ce conflit n'a pas lieu d'être, il faut vraiment que les deux pays se parlent.
Et comme beaucoup ici, à Surin, cette habitante n'attend plus qu'une chose, un apaisement des tensions entre la Thaïlande et le Cambodge le plus rapidement possible.
En 2011, lors de la dernière explosion de violence entre les deux pays, les combats n'avaient duré que quelques jours. Israël annonce une pause tactique de plusieurs heures à Gaza pour mettre en place des couloirs humanitaires. L'État hébreu a aussi parachuté sur l'enclave des denrées la nuit dernière. 7 lots de la farine et des conserves, notamment pour une population palestinienne massivement menacée par la famine après 21 mois de guerre entre Israël et le Hamas. La communauté internationale continue d'appeler à une levée beaucoup plus large du blocus. Mais dans ce contexte où Israël limite les manières de faire rentrer les denrées, Londres organise à son tour une opération parachutage. Emeline Vin.
Une équipe logistique et militaire britannique est en partance vers la Jordanie. Londres et Amman travaillent à l'élaboration d'un plan pour acheminer de l'aide humanitaire vers Gaza par voie aérienne. En clair, le Royaume-Uni et la Jordanie se préparent à larguer des colis alimentaires et médicaux sur le territoire palestinien. Une méthode contestée par les Nations Unies et les organisations humanitaires qui la jugent dangereuse et insuffisante. Israël a autorisé bien trop tard les pays étrangers à larguer de l'aide humanitaire, dénonce le Premier ministre Keir Starmer dans un communiqué. Mais nous allons tout faire pour porter secours aux Palestiniens. Londres va également tenter d'évacuer vers son territoire les enfants ayant besoin d'assistance médicale. En plus de ce plan humanitaire, le Royaume-Uni rappelle son soutien à un cessez-le-feu durable, condition essentielle selon lui à la reconnaissance de l'État de Palestine réclamée par plus de 200 députés britanniques.
Eux aussi voulaient mettre fin au blocus de Gaza. Les passagers du Andala, le dernier bateau affrété par la flottille pour la liberté. L'armée israélienne a intercepté leur chalutier hier soir dans les eaux internationales. Sur les dernières images diffusées par les militants pro-palestiniens, on les entend siffler l'air Bella Ciao, tandis que les militaires prennent le contrôle du navire. Le Tour de France masculin se termine aujourd'hui en cyclisme avant l'arrivée traditionnelle sur les Champs-Élysées. Les coureurs vont foncer sur la butte Montmartre, un clin d'œil aux Jeux Olympiques de 2024. Le spectacle avait réuni l'année dernière plus de 500 000 personnes. Alors face à l'engouement populaire, plus de 3 000 agents des forces de sécurité intérieure sont mobilisés ce dimanche. Un dispositif sécuritaire qui repose en partie sur les CRS, les compagnies républicaines de sécurité. Or, Jeanne Serrin, ces dernières alertent depuis plusieurs semaines sur leur surmenage.
Pour cette dernière étape du Tour de France, près d'une trentaine de compagnies républicaines de sécurité seront mobilisées, rapatriées des quatre coins de la France.
J'ai par exemple la CRS 15 qui est dans les sables d'Olonne qui remonte sur Paris, la CRS 17 aussi qui est sur les Alpes-Maritimes qui remonte également sur Paris.
Joanne Cavallero est responsable national CRS du syndicat Alliance.
C'est des événements qui sont récurrents tous les ans et malheureusement, tous les ans, il n'y a aucune préparation. Et on sait tout deux ou trois jours à l'avance.
Un manque d'anticipation alors que les missions des CRS, elles, ne font qu'augmenter sous la pression des préfets. Ils exigent presque systématiquement notre présence, même pour de petits événements, constate le syndicaliste. Mais dans un contexte de baisse d'effectifs, entre 800 et 900 CRS en moins en 10 ans. Conséquence des déplacements dans l'urgence qui pèsent lourd financièrement d'abord, rappelle Joanne Cavallero. Exemple, avec la compagnie 34.
Sur 20 jours de déplacement, ils ont fait plus de 150 000 km. Ça coûtait 17 000 euros de péage, plus de 15 000 litres de carburant.
Et alors que l'été permet habituellement aux forces de l'ordre de souffler ou de se former, les syndicats regrettent le suremploi de leur effectif pendant cette période. Olivier Cap, secrétaire national CRS du syndicat Unité.
La conséquence, c'est vie de famille, entre parenthèses, fatigue exacerbée. Donc si fatigue exacerbée, risque automatiquement sur le terrain, hein, parce qu'un fonctionnaire fatigué il n'a pas du tout les mêmes réflexes et pas du tout la même patience qu'un fonctionnaire qui a eu du repos. Donc tout ça, c'est des éléments importants.
Un risque alors que la rentrée s'annonce très tendue sur le plan social. Les syndicats de police s'attendent à de fortes mobilisations au moment du vote du prochain budget prévu à l'automne.
Jeanne Serrin, un incendie progresse dans l'Aude près de la ville de Sigean. Les flammes ont parcouru 310 hectares de végétation. Les pompiers espèrent réussir à le fixé dans la matinée. Et puis un mot rapide de météo, la pluie et les orages gagnent du terrain sur le quart nord-est de la France, des averses sont possibles plus au sud et à l'ouest et les températures baissent un peu.